Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! Un foyer où l'on chante est un foyer heureux. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, la bonne chanson.
La bonne chanson se réfère à ceci, c'est que les auteurs de la bonne chanson voulaient faire une chanson, je dirais, non paillarde, une chanson, je dirais, libre de toute difficulté, de tout problème, n'est-ce pas, d'ordre, disons, sensuel. Alors, ils ont laissé ça de côté. Et puis, c'est en ce sens-là qu'on parle de la bonne chanson. On voulait avoir des textes parfaits, purs, irréprochables.
L'ethnologue Georges Gauthier-Larouche, au micro de Jacques Lacourcière à notre radio, c'était au mois d'août 1986. Il fut un temps pas si lointain où chaque foyer possédait son recueil, des chansons du répertoire puisées dans la France profonde, parfois adaptées à la réalité canadienne-française. À l'origine de ce succès, l'abbé Gadebois, a cappella ou au piano, il a fait chanter la population de langue française du Québec, du Canada et de la Nouvelle-Angleterre.
Garçons et filles, chantez la bonne chanson, ça se chante en famille, le soir à la maison, ça se chante en famille, le soir à la maison, venez garçons et filles, chantez la bonne chanson.
C'était partout, c'était dans les familles, il n'y avait pas de famille. Au Canada français, je ne parle pas sûrement du Québec, le Canada français, là, il y avait les recueils de la bonne chanson dans les familles. Puis dans les écoles, que ce soit autant pour les filles que pour les gars, dans les collèges, moi, il y avait le frère Sébastien qui fait que si je chante encore aujourd'hui, là, je ne chante pas aujourd'hui parce que j'ai chanté « L'Alain climatisé » avant-hier, puis pouf!
Là, vos cordes vocales sont un peu fatiguées.
Moi, il n'y a rien pire que l'Alain climatisé.
Alors, ça, là, ce que je tiens entre les mains, André, c'est précieux, celui-là particulièrement.
Celui-là, c'est le numéro un.
Il y en a eu plusieurs, parce qu'il y a eu à peu près 500 chansons en tout.
Oui, mais c'est comme ça qu'ils nous envoyaient ça dans les écoles. Puis c'est comme ça que dans les écoles, on disait tout le monde pouvait chanter. Sais-tu chanter, tu sais pas chanter, on voyait peut-être... Il y avait la chorale, là, il y avait la chorale. Puis quand même, s'il y en a qui chantaient moins que d'autres, on leur donnait une place quand même. Ce qui fait que ça éduquait à la musique.
Mm-hmm. Propos d'André Lejeune, extrait de l'émission « Quelle histoire » en janvier 2015, précédé d'un des thèmes de la bonne chanson, enregistré celui-là en 1946. Alors, pour nous parler des origines de la belle chanson, mon invité, Sandria P. Boulian, elle est professeure adjointe de musicologie à la faculté de musique de l'Université Laval, à Québec. On la joint d'ailleurs dans nos studios là-bas. Bonjour, merci d'être là.
Bonjour.
Alors, dites-moi, les plus vieux connaissent bien, les plus jeunes, pas vraiment. C'est quoi la bonne chanson?
Alors, la bonne chanson au Québec, c'est celle de l'abbé Gadebois, donc une entreprise, une maison d'édition fondée dans les années 30 qui va se destiner à propager les valeurs canadiennes, françaises, catholiques par la chanson dans le plus grand nombre de foyers possible.
Oui. Donc, il y a vraiment une mission. Est-ce qu'on pourrait dire, parce qu'en écoutant les paroles, les thèmes, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est à la chanson un peu ce que le roman du terroir est à la littérature?
Oui, on pourrait vraiment faire un rapprochement avec le régionalisme qu'on retrouve en littérature, et surtout si l'on part des origines ou des influences de la bonne chanson au Québec, qui se trouve être la bonne chanson de Théodore Botterel, barde breton, qui avait lui-même propagé sa bonne chanson, non seulement en France, mais aussi au Québec.
Est-ce que l'objectif était le même en France à l'époque?
Assez semblable. Pour ce qui est de Botterel, on est dans une époque de la Troisième République. On se sent dans les régions un peu plus menacées par la grande ville. Il y a l'industrialisation aussi qui bat son plein. Et il y a une volonté à préserver des traditions, et notamment la chanson, des contes, des histoires, des régions. Et Botterel, lui, c'est sur cette tradition orale bretonne qu'il va se concentrer.
Oui. Et puis, bien sûr, il y a un lien de parenté avec les origines bretonnes et le Canada français. Bien, on va écouter un extrait justement de la bonne chanson telle qu'elle était présentée en France. Un enregistrement, vieil enregistrement, 1908, celui-là.
Le couteau, chanson populaire de Théodore Botterel, par l'auteur. Pardon, monsieur le métayer, si de nuit je dérange. Mais je voudrais bien sommeiller au fond de votre grange. Mon pauvre ami, la grange est pleine du blé de la moisson.
Donne-toi donc plutôt la peine d'entrer dans la maison. Mon bon monsieur, je suis trop gueux, quel gâchis vous ferai-je? Je suis pieds nus, sale et boueux, et sous couvert de neige. Mon pauvre ami, quitte ben vite tes hardes en lambeaux. Fouille-moi ce tricot de suite, chausse-moi ces sabots.
Théodore Botrel, donc c'est lui qui est à l'origine de la bonne chanson. Puis là aussi, on reconnaît les thèmes. On est à la campagne, là aussi en France.
Oui, si on est à la campagne, mais on est aussi dans un contexte de chansons qui cherchent à montrer la charité chrétienne. Hein. On a cet homme, ce monsieur riche qui accueille cet autre qui se présente comme un gueux. Il va se montrer généreux et bon, qu'on a une petite boutade à la fin. Donc, c'est vraiment c'est une chanson qui n'est pas grivoise, oui. Qui n'a pas non plus de propos qui dérangeraient, même s'il y a de l'humour, bien sûr, qui va être utilisé là, dans plusieurs des chansons, de la bonne chanson de Botrel, comme celle de Gadebois.
Oui. Donc, 1908, en France, celle de Botrel. Alors, pourquoi elle voit le jour au Québec dans les années 20? Comment la bonne chanson se propage ici, ou arrive ici plutôt?
En fait, elle arrive avec Botrel en 1903. Donc, Botrel va venir faire une visite à Montréal à deux reprises, en 1903 et en 1922. Et déjà en 1903, l'effet va être assez marquant. D'abord, il vient ici parce qu'il veut ramasser des fonds pour ériger un monument à la mémoire de Jacques Cartier en Bretagne. Alors, il est ici comme un peu en mission. Il va se rencontrer plusieurs paroisses, curés et autres, et va déjà se présenter sur scène, présenter des conférences sur ses chansons, les valeurs chrétiennes, la campagne. Et très rapidement, on a même des éditeurs d'ici, par exemple la librairie Beauchemin, qui va éditer des recueils des chansons de Botrel. Donc déjà, ça circule de façon assez importante tout au long des années 1900-1910, de sorte qu'à son retour en 22, bien, il est accueilli un peu comme une vedette. Là. Mm-hmm. Alors, il est déjà bien intégré au foyer et au répertoire de chansons canadiennes.
Oui. Il trouve ici un terreau fertile. OK, bon, ça passe par l'Église, on imagine. Qu'est-ce qui fait qu'on sent le besoin ou qu'est-ce qui justifie ce besoin de promouvoir la chanson du terroir d'origine française, mais chez nous, à ce moment-là?
Eh bien, en France, comme au Québec, la révolution industrielle et celle des médias va donner un grand coup. On a la presse à grand tirage, on a la radio qui ferait son chemin tranquillement, on a le disque, le cinéma, hein, le Wimitoscope qui est aussi au tournant du 20e siècle. Alors, on a comme ça toutes d'autres façons par lesquelles le public peut être amené à rencontrer des formes artistiques, entre autres de la chanson qui provient de l'extérieur. Et bien sûr, qui provient, entre autres, de la frontière américaine, donc des États-Unis. Et ça, ça ne fait pas plaisir à tout le monde.
Pourquoi?
Eh bien, on a moins de contrôle sur ce qui va être entendu sur scène, ce qui va être enregistré sur disque, ce qui va circuler dans les magazines, les journaux, les chansons qui sont publiées sous forme de feuilles volantes. Alors, on se retrouve comme ça avec de plus en plus de diversité de formes, de types de chansons. Et avec cette abondance-là, eh bien, on va retrouver des chansons comiques, grivoises, critiques, de toutes sortes d'allégeances idéologiques et politiques également.
Donc, c'est en réaction. C'est voyant la menace, et le jeu entre guillemets, mais la menace américaine ou les mauvaises influences anglo-saxonnes, on se dit, ben, tiens, aussi bien promouvoir la bonne chanson. C'est un peu ça, non?
Bien, c'est l'un des facteurs importants. Il y a aussi, oui, on pourrait mentionner celui de la migration des campagnes vers les villes. Hein. On a d'exode rural à la même époque. Alors, on cherche aussi à vouloir maintenir les gens dans le droit chemin. Les paroisses ont moins la capacité de pouvoir contrôler leurs fidèles en ville qu'en campagne. Alors, il y a aussi cet intérêt-là à vouloir s'assurer que les valeurs catholiques et françaises puissent conserver leur place dans les foyers.
Oui. Et ça passe par la bonne chanson version québécoise. Hein, et ça part de l'abbé Gadebois, qui sera une figure extrêmement importante. Alors, c'est qui l'abbé Gadebois?
Alors, l'abbé Gadebois, en fait, jeune homme fasciné par la musique et par la culture française, il vient de Saint-Hyacinthe, va faire sa formation musicale de base auprès de sa famille dans sa ville, et puis va se rendre à Montréal pour faire des études un peu plus sérieuses et aussi pour obtenir son ordination, ça, à l'âge de 24 ans, là, autour de 1930. Donc, il va aller à la Scola Cantorum à Montréal, une école fondée en 1915, où ce sont les chants de la liturgie grégorienne, là, ou le chant grégorien, comme on appelle, en latin, qui sont le fer de lance de cette école-là. En fait, on cherche déjà à travers cette école-là de vouloir faire la promotion d'une bonne chanson ou de bons chants à l'Église, de bons chants religieux par un retour affirmé par notamment le Motu Proprio de 1903, donc un retour bien clair dans les églises du chant latin, donc du chant grégorien.
Oui, et on voit en lui, j'imagine, un candidat idéal.
En fait, donc, lui a déjà cette formation-là, retourne à Saint-Hyacinthe, va devenir chef de chœur, chef d'harmonie dans sa communauté, dans sa congrégation. Et donc, déjà, pour lui, la musique, la chanson est un vecteur idéal pour faire la promotion des valeurs auxquelles il croit, là.
On entendait dire au début, hein, dans la première archive, que c'est une chanson pure, irréprochable sur le plan moral, et vous l'avez répété. Est-ce qu'on va jusqu'à modifier certains textes?
En fait, quand l'abbé Gadebois lance son entreprise en 1937, donc il commence avec une chanson, puis deux chansons, puis elles vont s'accumuler comme ça rapidement. La plupart des chansons qui sont publiées dans les cahiers de la bonne chanson, ce ne sont pas des chansons traditionnelles, hein, issues de la tradition orale. La plupart, ce sont des nouvelles compositions, soit d'auteurs-compositeurs, surtout des hommes français ou encore canadiens français. Alors déjà, dans la sélection des chansons qui sont faites, plusieurs d'ailleurs sont composées ou écrites par des membres d'une congrégation religieuse, curé ou sœur ou religieuse. Donc là, on a un meilleur contrôle, mais on veut faire une place à la chanson traditionnelle. Et là, oui, s'il y a des propos, des mots ou une fin qui ne nous plaît pas, bien, on va se donner la liberté de la corriger, de la modifier.
Oui. On va écouter l'abbé Gadebois nous en parler de tout ça. C'était à notre micro en juillet 1980, donc les origines de la bonne chanson.
Revenons quelques années avant et parlons de cette œuvre de la bonne chanson que vous avez fondée en 1937. Je pense que c'est à l'instigation de Mgr Camille Leroy, à qui on doit notre première histoire de la littérature canadienne-française.
Exactement. Il était de passage à Saint-Hyacinthe, au séminaire, et pendant sa conférence, il a parlé de chansons et il a souhaité que quelqu'un s'occupe de répandre la bonne chanson, puisqu'il faut l'appeler ainsi. Et je me suis senti appelé à cette œuvre. J'ai consacré 18 années de ma vie à chercher et à répandre la bonne chanson. Et j'en suis très heureux parce que la bonne chanson, je dirais même qu'elle se chante partout. Et ça me fait plaisir.
Elle se chante partout. Et c'est vrai que la bonne chanson va devenir un véritable phénomène. Comment on l'explique ça?
Bien, le support hein, qu'il va recevoir de toutes parts et surtout, bien sûr, des paroisses, des curés à travers le Québec et à travers le Canada français, comme on l'a mentionné en début d'émission, bien, ça fait en sorte que dès l'année suivante, donc en 1938, le Conseil de l'instruction publique va en fait recommander la diffusion des cahiers de la bonne chanson à travers toutes les écoles des commissions catholiques de la province.
Oui, parce qu'on dit qu'à une époque, à peu près toutes les familles en possédaient au moins un recueil de la bonne chanson. C'est distribué comment, ça?
Bien, c'est sûr que déjà, en l'intégrant dans les écoles, on s'assure qu'il y a un minimum de recueils qui se retrouvent dans la grande majorité des foyers. Mais on avait donc d'autres canaux de distribution. D'abord, les feuilles volantes, hein, des chansons publiées séparément. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils avaient commencé au début, avant de les réunir dans des beaux recueils boudinés. Ça, c'est déjà une bonne façon. Mais aussi, on a déjà rendu, à la fin des années 30, plusieurs canaux de distribution dans les magasins de musique, dans les magasins de meubles, dans les librairies où on peut acheter facilement des partitions de musique. Puis on peut penser aussi qu'au sein même des paroisses, ce sont des cahiers qui sont faciles à se procurer.
Oui, tout à fait. Il y a un pouvoir de diffusion important en raison, bien sûr, de la participation de l'Église. Est-ce qu'on a des chiffres du cahier de la bonne chanson?
Oui, bien fait, il y a Jean-Nicolas de Sourmont qui a consacré un ouvrage à la bonne chanson et lui, il estime à 125 millions de copies de chansons qui auraient été distribuées. Donc là, on ne parle pas des cahiers, mais des chansons elles-mêmes. 125 millions, exactement. Oui, oui.
Ah oui.
Et à Saint-Hyacinthe, c'est là où on imprimait le tout. Ils étaient dotés là, des appareils à la fine pointe des technologies là, pour pouvoir faire vraiment de l'imprimerie à grand tirage.
Oui. Je dis, c'est pas toujours des chansons religieuses, hein?
Non, non, non. On retrouve toutes sortes. En fait, c'est pas tant des chansons religieuses qu'elles vont du moins porter ce qu'on dit les valeurs religieuses.
Oui, les valeurs chrétiennes, oui, c'est ça.
Exactement. Donc, on a des compositeurs canadiens, français, comme Roméo Baudry avec des chansons Ne fais jamais pleurer ta mère, Alouette n'aie pas peur de moi. On a des chansons de français, Benjamin Godard avec La berceuse à Jocelyn, L'Angélus de la mer de Gustave Goublier. Donc, pour plusieurs des auditeurs, auditrices, probablement que ce sont des chants qui leur disent quelque chose. On a Vive la France d'Ernest Lavigne, Le réveil rural d'Oscar O'Brien. Donc, on a beaucoup de répertoires nouveaux, soit composés expressément pour la bonne chanson ou qui existaient déjà, qui étaient déjà publiés. Mais après ça, oui, tout un répertoire de chansons traditionnelles. C'est l'Aviron qui nous mène, Isabeau, Marianne Savoie-Tomilin. Enfin, ils sont presque. Il y en a plusieurs qui sont là. Il y en a beaucoup quand même.
Oui. Bon, on parlait du pouvoir de diffusion, puis bon, et bien sûr, les médias de masse. Est-ce qu'elles tournent régulièrement à la radio, ces bonnes chansons?
Mais c'est là qu'on parle vraiment d'une entreprise. C'est-à-dire que la Bégane Bois ne se limite pas au papier, donc à la distribution de partitions et de recueils de chansons, mais va aussi donc, supporter la création d'une émission de radio qui va être entièrement dédiée donc, au répertoire de la bonne chanson. Ça s'appelle le quart d'heure de la bonne chanson. Ça va être animé pendant une quinzaine d'années par Albert Viau, un des grands interprètes aussi des chansons de la bonne chanson sur disque. Alors, quand on pense d'une émission tenue pendant 15 ans, c'est quand même quelque chose d'important là, au Québec dans le paysage radiophonique. Puis des disques, bien, environ 200, c'est encore difficile des fois à chiffrer exactement, mais au moins 200-250 disques, chansons qui ont été gravées sur disques par différents interprètes.
Oui. Les chiffres sont vraiment impressionnants. Puis vous dites, une entreprise, bien justement, comment va réagir l'Église face à ce succès? Hein? Aux yeux de l'Église, est-ce que c'est compatible tout ça, une entreprise, un succès mercantile, parce qu'on imagine que c'est payant aussi, avec les vœux de la prêtrise?
Oui, donc on peut comprendre que pendant un certain temps, on est d'abord très enthousiaste à l'idée que ça fonctionne, que les gens chantent des chansons qu'on juge bonnes. Mais en effet, avec l'ampleur du phénomène, avec aussi, comme vous avez mentionné, les retours d'argent que ça peut susciter, eh bien, il y a un malaise à partir de la fin des années 40 qui se fait de plus en plus sentir. Et puis, on va plutôt suggérer fortement à l'abbé de Gadebois de se départir, donc de faire don de l'entreprise aux Frères des écoles chrétiennes qui, eux, s'occupent déjà de distribuer des ouvrages à nature à fonction pédagogique dans les écoles.
Donc, on va lui suggérer. Il va, j'imagine, obtempérer, sans
absolument.
Doute. Ouais. Oui. Même si au début, ça faisait partie de l'œuvre, vous l'avez dit, l'œuvre d'éducation des prêtres du temps. Puis, oui, c'est une bonne nouvelle, on imagine, pour l'Église de voir un succès comme celui-là. À ce sujet, encore une fois, l'abbé Gadebois, en 1980, à notre radio.
Mais comment un prêtre, en 1937, peut-il prendre une œuvre comme celle-là? Est-ce que c'est bien vu, d'abord, qu'un prêtre s'occupe de cette chanson? Ça faisait partie de l'œuvre d'éducation des prêtres du temps?
Mon supérieur au séminaire de Saint-Hyacinthe m'a permis de prendre tout le sous-sol de la chapelle, qui est immense, et là, j'ai recueilli une trentaine de garçons et d'hommes qui m'ont aidé à chercher et à reproduire les chants que j'aimais le plus. Alors, nous avons publié ces chansons-là et la réussite a été tellement immense que je m'en réjouis aujourd'hui. Il me semble que ça va faire du bien. Ça en a fait du bien et ça continue d'en faire parce que partout où je vais, j'entends chanter mes chansons. Et ça me rend très heureux.
Un immense succès, vous l'avez dit, mais les chiffres, faut-il le rappeler, sont impressionnants, mais tout ça va péricliter avec le temps. Alors, comment s'amorce le déclin de la bonne chanson, puis à partir de quand?
En fait, on peut le penser par déclin, mais on peut aussi penser qu'il y a une façon dont ce répertoire-là va perdurer aussi au Québec. On en parle encore beaucoup aujourd'hui. Ça a été mentionné déjà en début d'épisode. Non seulement les cahiers, bien, ils existent encore dans plusieurs maisons, dans plusieurs foyers. Même lorsqu'ils n'étaient plus obligatoires à l'école, eh bien, il y a les parents. Ensuite, c'était les grands-parents qui ont souvent continué à chanter ce répertoire-là. Mais ça a marqué notre histoire d'une manière aussi assez assez présente par la production. On a parlé de disques, d'émissions, de concours, mais aussi de fondations qui ont suivi l'œuvre de M. Gadbois, même une fois son décès passé. Ce qui va donner un gros coup de main à ce que la mémoire de Gadbois puis de son œuvre puisse rester encore d'actualité d'une certaine manière, eh bien, c'est le soutien que va accorder le frère de l'abbé Gadbois à la mémoire de celui-ci. Oui. Il va y avoir une fondation, par exemple, en 86, qui est fondée, la Fondation Abbé Charles-Émile Gadbois, qui est mise sur pied donc, pour offrir des bourses aux étudiants en chant classique. Et en 98, donc une dizaine d'années plus tard, ce mandat-là il est donné à l'Université de Montréal. Et encore aujourd'hui, je suis allée voir, donc en 2022, on a distribué des prix, les prix de la Fondation Abbé Gadbois, offerts par l'Université de Montréal. Mm-hmm. Donc, il y a ça, cette fondation-là. Il y a aussi la Fondation Domisol, qui a été créé à peu près à la même époque. Et c'est intéressant parce que Domisol, c'est qu'on reprend ici les premières lettres de Charles-Émile Gadbois, donc C-E-G pour Domisol. Et cette fondation-là, c'est destinée à encourager le chant chez les personnes âgées, chez les aînés, donc de construire des chœurs à travers la province, mais aussi de tenir annuellement un concours, le concours Chante en français. Et encore là, ce concours-là existe aujourd'hui. En 2002, on a remis deux différents prix, le prix Georges d'Or et le prix Charles-Émile Gadbois. Il y a l'édition 2023 qui est en préparation. On a Marc Derry qui en est le porte-parole et c'est animé par Geneviève Borne. Alors, on s'en rend peut-être pas toujours compte, mais...
Non, il y a un devoir de mémoire, ouais, effectivement. Ouais, ça a marqué. Oui, bien, tout à fait. Ça a marqué l'imaginaire pendant plusieurs générations. C'est vrai que ça a perduré, puis c'est peut-être... ça qui est assez extraordinaire, mais on imagine aussi qu'avec, je ne sais pas, avec la Révolution tranquille, les années 60-70, la Révolution des mœurs, ce message-là datait un peu, il n'avait plus la même portée, non?
Oui, absolument. Puis on voit de plus en plus clairement la rectitude qui est très présente dans le répertoire de la bonne chanson, la correction des pièces, des œuvres. On va dire que ça appartient au passé.
À une époque lointaine.
Hein? À une époque plus lointaine. Et c'est ça, qu'on peut passer à autre chose.
Oui. Ben, un exemple, justement, puis tiens, on va se laisser là-dessus. C'est Au fond des campagnes, chanté par le quatuor Alouette. Puis voici, ça, c'est un exemple dont les paroles ont été changées, parce qu'à l'origine, c'est pas ça, là.
Non, en fait, on remarque la mélodie qui est empruntée ici, c'est celle d'Auprès de ma blonde, hein, où il fait bon dormir, où il fait bon rester. Alors, on comprend que ces paroles ne coïncident pas tout à fait avec la vision de la bonne chanson qu'on cherche ici à diffuser.
Oui, scandale, hein? Donc, Auprès de ma blonde, ça devient plutôt, au fond des campagnes. Les gens de la campagne ignorent leur bonheur et on y célèbre le mode de vie du terroir, le monde rural, à l'image donc de la bonne chanson. Mon invité, je le rappelle, Sandria P. Boulian, professeure adjointe de musicologie à la Faculté de musique de l'Université Laval. Elle nous parlait depuis nos studios à Québec. Merci beaucoup d'avoir été là.
Merci, c'est un plaisir.
Merci. Puis voilà, on se laisse en musique. Ici Maxime Gauthier là-dessus. Bonne soirée. À une prochaine. Au revoir.
Voyez les jeunes filles et leurs minois charmants. Voyez les jeunes filles et leurs minois charmants. C'est la gaieté qui brille sur ces fronts de 20 ans. Au fond des campagnes, il fait bon, fait bon, fait bon. Au fond des campagnes, il fait bon rester.
Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.